matin, dans l'open mic, Max, on parle d'un sujet qui est vraiment pas facile. Puis quand je dis pas facile, c'est qu'on est rempli de préjugés, notre sac à sympathie est complètement vide. Mais on va quand même essayer d'ouvrir notre esprit au côté psychologique de la chose. On va parler de déviance sexuelle sévère. On a déjà fait une chronique dans l'open mic, quand c'était une émission avec Yann Marceau, sur la pédophilie, entre autres, ce qui a fait énormément réagir. Puis moi, je suis la première à avoir littéralement aucune sympathie pour ces gens-là. Mais Val, Mademoiselle V, Valérie, m'avait quand même ouvert l'esprit sur le fait qu'il y a des gens qui tentent d'aller chercher de l'aide et qui ne commettent pas le crime, qui se rendent compte qu'ils ont une déviance puis qui ne veulent pas ça. Mm. Fait que là, t'essayes de trouver un peu de sympathie, même si c'est dur à trouver. Tu me suis. Et là, l'exemple duquel on va partir aujourd'hui, c'est Jeffrey Epstein.
La Finlande vient tout juste d'ouvrir la marque. C'est 1-0 Finlande, 3 minutes 5 à faire en première. Je vais essayer de ne pas trop faire ça souvent.
Ben, t'es pas le seul, hein? Ça me fait rire parce qu'on est en plein sujet autant dans le retour le matin que dans tous les shows.
La bonne nouvelle, c'est que la première finit bientôt, fait que ça devrait pas arriver pendant...
Mais je vais te demander, Max, que ça arrive pas pendant l'open mic parce que c'est un sujet qui est quand même... Très délicat.
Ça finit bientôt la première. Ça devrait être pas pire.
Ben, on se donnera des nouvelles dans 25 minutes.
Parfait.
Fait que surveillez vos notifications, ceux qui sont accros aux Olympiques. Là. Donc, c'est ça. On va parler d'un sujet qui est plate puis qui est dur à entendre parce que cette sympathie-là, on ne l'a pas. Quel genre de personne fait ça? Des crimes sexuels, des actes sexuels, de la traite de personnes? Comment on arrive à avoir des gens dans notre société avec une forte déviance? Puis on va essayer de comprendre, comme je vous dis, le côté psychologique derrière. Il n'y a rien de ce qu'on va dire dans les 25 prochaines minutes qui excuse quoi que ce soit en passant, je tiens à le dire. Là. Et c'est Valérie qui a fait son travail de recherche puis qui nous arrive avec ce sujet-là ce matin. Puis je suis très ouverte et curieuse de t'entendre, Val.
Ben, écoute, moi, je suis partie de... Et là, moi aussi, j'ai besoin de faire un disclaimer. Je m'excuse, mais le prénom Epstein va souvent sonner comme Einstein, OK? Epstein, j'ai bien de la misère, mais vous vous souvenez de qui je parle, je vais essayer de faire un effort. Alors moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont communiqué avec moi et qui m'ont demandé, Valérie, quel genre de personne commet ce type de crime-là? Et puis, moi, j'ai déjà travaillé avec des gens qui étaient atteints de pédophilie parce qu'on entend que la pédophilie, c'est d'abord une maladie.
C'est vraiment considéré comme une maladie pour vrai, là?
Oui, je sais que t'aimes pas ça.
Dans le DM5, c'est...
Oui, absolument. Oui, absolument, ça l'est.
C'est la maladie mentale. C'est
une déviance, oui, mais j'ai de la misère. OK.
Oui, la pédophilie, c'est considéré comme un trouble clinique et non une maladie morale, OK? Et pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a des gens qui sont atteints d'une attirance envers les enfants, ce qui n'est pas acceptable, on le sait, mais qui ne commettront jamais l'acte d'aller plus loin. On parle d'environ 30 à 50 % des pédophiles qui vont commettre un acte, alors que plus que la moitié n'en commettront jamais. C'est pas acceptable d'en commettre, c'est pas plus acceptable de pas en commettre, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ces pensées-là? Puis que justement, on lève la main, puis tout le monde nous crie dessus en nous disant « déchets de société ». Je comprends. Je comprends l'action qu'on a en tant que personne qui a peur de nos... qu'on a peur, on veut protéger nos enfants. On est dans une société où on a besoin de les protéger. Mais il faut comprendre aussi que si on n'aide pas ces gens-là, ça va devenir une épidémie incroyable. On parle déjà à ce stade-ci de 1 à 3 % de la population, on pousse le 3, qui est atteint de cette maladie-là. Donc, ça veut dire 3 % de la population, je ne sais pas qu'on on est rendu sur la Terre, là, si vous faites le calcul, là, ça donne...
8-9 milliards facile, là, il me semble.
C'est ça. Donc, de 3 % de 30 milliards, vite de même, là, ça donne les 303 millions, quelque chose de même.
On est 8,3 milliards.
Bon. Voyez-vous, fait que c'est des statistiques qui sont assez alarmantes. Donc, je disais tantôt, 30 à 50 des personnes qui sont atteintes vont passer à l'acte, mais pas nécessairement les autres. Donc, ce qui nous laisse plus que la majorité à aider, si on veut. Et là, je suis partie de cette affaire-là dont tout le monde me gâche les oreilles toute la semaine avec Epstein. Et je me suis dit, bon, essayons de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir eu comme... obstacle dans la vie de ce petit Epstein-là pour qu'il en vienne aujourd'hui à créer ce type d'acte.
Mais c'est-tu des obstacles ou c'est juste... Parce que ça, c'est une autre affaire avec laquelle j'ai beaucoup de misère, Val, de toujours essayer d'excuser par l'enfance qu'a eue cette personne-là. On est une gang à avoir été intimidés, écœurés, puis on n'est pas toutes virées débiles. On est une gang à avoir vécu... Il y a des gens qui vivent des affaires atroces puis qui restent des bonnes personnes sensées, tu sais, fait que...
Le passé explique la faille, mais excuse pas le geste. Moi, je le vois comme ça. C'est des circonstances atténuantes. Je vois ça comme ça. Si tu me présentes en tant que juge, quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à la société avec preuve, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est des circonstances atténuantes face à son cas. Mais est-ce que ça excuse le fait d'avoir des pensées de ce type-là? Non. Même si c'est pas de sa faute, même s'il commet pas l'acte, ça demeure que c'est moralement inacceptable.
Quelle question on doit se poser comme société face à l'augmentation de ce type de crime-là?
Ben moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'on repère toujours ça trop tard? On va se le dire, là. Epstein, c'en est un exemple. Je veux dire, combien d'années on a mis ce gars-là, 13 mois en prison pour finalement se rendre compte, après qu'il soit mort, que c'est une catastrophe nucléaire. Donc, on n'a pas étudié assez rapidement ce problématique-là. Fait que c'est ce que je voulais qu'on regarde ensemble ça. Puis aussi, quel mécanisme psychologique puis rationnel va mener à ça? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct en société qui fait qu'on augmente comme ça chaque année de 1 à 3 %, tu sais?
Pour la première question, je pense que la réponse est, ou du moins une partie de la réponse est relativement simple de... On regarde la réaction que tout le monde a à partir du moment où on dit le mot pédophile. Si toi, tu te rends compte de « Hey, moi, je colline, j'ai ça, c'est attiré, je veux pas avoir... » Tu vas-tu aller te stouler à quelqu'un, tu sais? D'après moi, il y a une bonne partie là-dedans.
Non, puis tu sais, là, tu parles de pédophilie, mais pour des crimes sexuels comme Epstein a fait, moi, je dirais que le pourquoi on s'en rend pas compte nécessairement sur le moment, il y a une armée derrière ces gens-là. Hein. L'argent, le pouvoir, le fait que beaucoup se taisent et sont donc aussi coupables, à mon avis.
Absolument.
J'ai l'impression qu'il y a un gros côté moral à ça. Là. C'est déficient.
Puis tu as raison, Max. Une des raisons pour laquelle on arrive toujours trop tard, c'est une question de honte. C'est une honte extrême que ces gens-là ont et ne vont pas aller demander de l'aide auprès des spécialistes qui pourraient les aider, hein, comme un sexologue, par exemple. C'est pas nécessaire d'attendre, là, ce n'est absolument pas non seulement nécessaire, mais ne faites pas ça, attendez pas d'avoir des pensées beaucoup trop profondes avant d'aller consulter.
Fait que là, on parle des gens qui n'ont rien commis encore.
Non, ben
parce que si je m'attarde à Epstein, d'après moi, il n'y avait pas de honte, là, c'était très assumé. Là.
Non, mais peut-être qu'en début de carrière, quand il a commencé tout ça, peut-être qu'il avait cette honte-là, mais qu'il n'a pas été capable d'aller chercher l'aide dont ils voulaient. Puis c'est justement ça qu'on va regarder aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'ont pas accès à de l'aide plus précoce? Il y a aussi une confusion publique incroyable. Tu le dis, ça t'énerve qu'on dise le mot maladie. C'est normal parce que c'est quelque chose qui nous répugne. Mais il y a une confusion publique entre c'est quoi un fantasme, c'est quoi une problématique, puis une maladie, puis un crime. Tout ça ensemble fait que la société réagit au scandale et non aux signaux précoces de la maladie. Fait qu'il y a une absence évidente d'aide clinique au Québec, malheureusement. Puis je ne peux pas porter de diagnostic sur Epstein, malheureusement. Je ne l'ai pas rencontré, heureusement. Mais si j'avais à le faire, depuis ce que j'ai regardé, je dirais que c'est une paraphilie qui implique des mineurs, donc de la pédophilie, et une compulsivité sexuelle qui est dominante, puis des traits de...
Une personnalité manipulatoire.
Oui, du narcissisme, c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est un narcissique qui avait tous les objets de pouvoir entre ses mains pour faire beaucoup de dommages. Et puis, malheureusement, il l'a fait.
Puis, tu te sens invincible dans ce temps-là quand tu as l'impression qu'il a été protégé de tous bords, tous côtés.
Bien, écoute, l'option de groupe, là, parlons-en. Hein. On aime ça croire au monstre qui est solitaire, là, mais la réalité, c'est que c'est presque jamais le cas. Okay? Quand on a un groupe, ce qui était une pensée devient discutable. Ce qui était discutable devient acceptable, puis ce qui était acceptable devient faisable.
La honte du début dont on parlait, qu'au départ, si tu dis, mais voyons, c'est pas normal que j'aime les... Ah, ben tu sais, on est une gang... on est une méchante gang à aimer ça, petit gars.
C'est ça. Seul un fantasme, ça peut rester une pensée. Mais quand on met ça dans un groupe, ça peut devenir un plan. Et c'est ça que je pense que Ghislaine Maxwell, et Prince Andrew et toute la gang ont fait ensemble. Ce n'est pas que la faute d'Epstein. C'est juste plate qu'on ne puisse plus mettre la faute sur lui, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui a été fait en groupe. Et l'argent a énormément facilité le tout. L'argent, on ne sait pas trop où il l'a fait, là, mais toujours est-il que l'argent a facilité ça en fou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un criminel mort qu'on ne peut pas accuser en tant que tel. Mais ce gars-là avait aussi des circonstances atténuantes, probablement. Et j'imagine que peut-être voulez-vous les connaître, savoir un petit peu ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un pour en arriver à de tels gestes. Évidemment, le passé, ça explique l'affaire, mais pas le geste, comme je dis. Donc, tout ce que je vais vous nommer ici n'est absolument pas une raison pour faire du mal.
Pas des excuses.
Okay? Ce n'est pas des excuses. Donc, la majorité des gens qui vont commettre ce type de geste-là, on n'a pas de statistiques précises parce que ça dépend du geste précis en tant que tel, ont presque tous été subi une forme de négligence physique, émotionnelle, mentale. On le sait pas, ou même des abus physiques sexuels. On le sait pas si c'est le cas d'Epstein, malheureusement. On n'a pas beaucoup de détails sur ce qui s'est passé pour lui. Sinon, il y a aussi une exposition sexuelle qui est précoce. Hein. Souvent, ils vont être mis face à la sexualité beaucoup plus rapidement dans la vie. Donc, ça perturbe le développement affectif et sexuel, puis ça entraîne des comportements qui vont être problématiques fois trois plus tard. Et sinon, je pense que c'est le plus important, la notion de l'attachement. Les liens affectifs dans l'enfance instable, incohérent, là, ça, il n'y a rien de pire pour quelqu'un. Honnêtement, ça lui enlève une portion d'empathie. L'empathie envers la victime quand elle n'est pas là, on a un gros problème. Ça devient un geste encore plus dégueulasse, si on veut. Donc, automatiquement, la notion d'attachement chez ces troubles-là va faire un trouble d'attachement, ce qui fait que les relations saines et à partir d'émotions ou d'empathie n'existent presque plus ou sont difficiles à aller chercher, si on veut.
De le fait que la honte qu'ils peuvent ressentir, à mon avis, n'existe pas tant que ça, là, ça, c'est personnel.
Ça dépend des cas, j'imagine. Tu sais, moi, j'ai peut-être pas eu la chance, mais oui, c'est une chance en tant que carrière d'avoir travaillé avec certains de ces personnes-là qui n'avaient pas commis d'actes, mais oui, la honte, elle est incroyable. C'est ce que je ressens le plus, ouais.
Ça ressemble à quoi, le cheminement? Ça commence comment? Parce qu'il faut que ça parte de quelque part. Il faut une première victime là, pour qu'après ça, tu te sentes donc libre de faire du mal de même.
Oui, c'est ça. C'est que souvent, c'est pas un geste fixe qui fait que ça commence. Ça. C'est souvent des gestes qui vont être graduels et qui vont prendre de l'importance avec le temps. Souvent, on va avoir un trouble de contrôle de l'impulsion. C'est pas juste un désir fort, là. C'est une incapacité à réguler les comportements malgré les conséquences que ça va apporter. Fait que tu le sais que ça va te mettre dans le chenoute, mais t'es pas capable de t'en empêcher de le faire quand même, OK? Donc, le trouble du contrôle. Ensuite, il y a comme une escalade progressive qui se fait. Pour résumer ça, ce qui suffisait avant suffit plus. Si avant, tu regardais des choses qui étaient normales, maintenant, il faut que tu ailles un petit peu plus loin là, au bord de la clôture pour aller chercher et c'est là que ça va pas bien.
Ça fait penser à tout ce qui est porno-dépendance.
Voilà.
C'est des gens qui ont une simple relation sexuelle, bien, ce ne serait plus assez pour les exciter. Ils vont chercher des images de plus en plus fortes jusqu'à des images, voire illégales, pour être capable de se satisfaire. Là.
Et ça fait partie d'un des signes. T'sais, justement, quand on se met à aller vers le dark web, quand on se met à aller parler avec des gens d'âge mineur, quand on se met à commettre des petits délits de ce type-là, c'est là que ça dérape. Donc, c'est avant ça qu'il faut aller chercher de l'aide. Sinon, ce qui est le plus, selon moi, le plus problématique, c'est l'isolement puis la double vie que ces gens-là vont avoir. C'est comme ça que ça va commencer. Ils vont souvent cacher leurs pulsions puis leurs actes en se retirant de la société, ce qui va... Il n'y aura pas de remise en doute, parce que tu n'en parles pas à personne. Hein? Tu deviens automatiquement réclus sur toi-même, tu n'en parles pas. Ce qui fait que ça devient peut-être une bonne idée, ou si tu en parles à des gens comme toi qui ont les mêmes pulsions, et là, soudainement, ça devient...
Chambre d'écho.
Voilà.
Vous vous confortez.
Exactement. Donc, c'est, je dirais, là, les principales étapes d'un cheminement catastrophique, si on veut. Et pour éviter ça, c'est de vraiment... comment dire, voir à la base c'est quoi les signaux d'escalade, quand est-ce qu'il faut aller chercher de l'aide, et c'est surtout ça que je voulais qu'on voit aujourd'hui, parce que si on continue de les ignorer, ces gens-là, je vous avertis que dans 10 ans, ça sera pas 3, mais ça va être 10%. Et là, on va avoir des gros, gros, gros problèmes comme société, OK? Donc, je sais pas si les premiers ministres m'écoutent, mais...
Venant d'une conseillère en sexologie.
Exactement. Donc, comment déterminer les signaux d'escalade? Probablement, le fantasme obsessionnel qui prend de plus en plus de place dans l'intensité. Okay? Donc, comme je disais tantôt, ça ne suffit plus. L'isolement social ou de la double vie, on en a parlé, mais tout ce qui est de la honte, la tendance à l'isolement va rendre ça pire. Et sinon, la recherche de matériel sexuel inapproprié. Bon, là, je parlais de dark web tantôt, mais il y en a qui vont se dire, bon, ben, regarde, moi, pour aller tester... Là, si je suis bien ou non là-dedans, je vais aller parler avec des gens sur Internet d'âge mineur. C'est absolument illégal de faire ça. Ouais,
me semble que ça sonne pas comme une super idée. Hein?
Non, c'est absolument pas une super idée, mais c'est souvent comme ça que ça va commencer. on va aller tâter le terrain.
Oui, puis ironiquement, les gens sur Internet se sentent anonymes.
Oui.
Tu sais, il y a plusieurs années, la plateforme, bon, maintenant, elle est bannie, là. Omegle, c'était une plateforme où tu peux contacter des gens à travers le monde de façon anonyme.
Oui.
Quand tu le veux, tu peux allumer ta caméra si ça tente ou pas, juste chatter. Et j'avais fait le test de me faire passer pour une jeune fille de 14 ans. Puis je me souviens que sur 10 conversations, il y en a 7 qui menaient à « Hey, je vais prendre ton Snapchat, on s'envoie-tu des photos? »
Ah ouais.
7 sur 10, aïe, aïe, hein? Sans blague. C'est énorme.
Tu faisais passer pour 14 ans?
Oui, une jeune fille de 14 ans. J'avais monté un dossier avec ça il y a quelques années ici. Puis ça m'avait frappé ça, là. Parce que souvent, on va utiliser des plateformes de transition comme ça pour mener à des applications qu'on connaît un peu plus. Et là, il y a des faux profils. Puis vous comprenez que ces gens-là se sentent en sécurité de tâter l'eau.
Exact.
Parce qu'on n'entend tellement pas parler de punition, de réprimande pour ces gens-là. Les policiers n'ont tellement pas le temps. Ou du moins, ils montent des dossiers d'un coup que, mais je veux dire, il n'y a pas de police du web, là, que non, le monde se sente en sécurité d'être croche.
Puis l'acte n'a pas été commis en tant que tel encore. Donc, je veux dire, l'acte de faire des choses avec un mineur n'a pas été commis. Donc, c'est difficile pour eux de mettre la main dans le sac alors que ça n'a pas été fait encore. Non,
mais même quand c'est commis, là, échange de photos sexuelles, même quand c'est commis, souvent, ils ont de la misère à les retracer. C'est épouvantable.
Effectivement. Si on parle de statistiques un peu, malheureusement, c'est triste, mais un enfant sur cinq dans le monde a été victime d'abus sexuels, dont ces abus-là surviennent généralement avant l'âge de 15 ans. Il y a certains pays qui font mieux que nous, hein, by the way. L'Europe de l'Est, c'est l'Asie de l'Est, mais on pense que ça vient plus d'un lien ou de la capacité des victimes à se faire entendre plutôt qu'un réel comportement meilleur social.
Il y a moins
social,
de dénonciations.
Ouais, bien, en fait, je dirais que c'est contraire, c'est qu'ils sont plus poussés à dénoncer, ce qui fait que ça va un petit peu mieux dans ce coin-là. Ouais, c'est ça. Donc,
mais probablement que le système de justice fait en sorte aussi qu'ils sont... Tu sais, c'est parce que nous autres, ici, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas dénoncer parce qu'on entend souvent qu'il y a des petites failles avec notre système de justice.
Effectivement,
malheureusement. Ça décourage les gens, j'ai le sentiment. Peut-être que cet aspect-là qui rentre là-dedans, je ne sais pas.
Absolument. C'est vraiment difficile de... Tout ce qui est comportement sexuel, le viol en tant que tel, est extrêmement difficile à traiter. Les gens ne vont pas prendre assez de temps au niveau punition pénale, ce qui fait que ben, les gens se découragent et ils vont dire « Regarde, ça ne me donne rien de dire, ça va prendre 2 ans, puis éventuellement, ça va... » Il n'y a rien qui va se produire. Donc, je pense qu'en tant que société, on doit se regarder et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Je sais pas s'il nous reste 2 petites minutes pour parler.
Les solutions, ben moi, je suis curieuse. Tu sais, j'essaie d'être ouverte d'esprit pour aider potentiellement ces gens-là. Puis on est dans un modèle judiciaire comme ça aussi de la deuxième chance puis de la réinsertion sociale puis de la prévention. Puis... Fait que je te laisse aller. Qu'est-ce qui existe comme solution?
Bien, tu sais, on offre de l'aide aux gens suicidaires. On offre de l'aide aux gens qui boivent au volant. On offre de l'aide à plein de gens. Donc, ça serait normal qu'on puisse aider les gens qui ont des pensées intrusives envers les mineurs, mais qui n'ont pas nécessairement commis de crime encore. Ici, au Canada, on a ce qu'on appelle le Sexual Behavior Clinic à Ottawa.
Ah ouais, hein?
Ouais, qui est quand même, qui est affilié à plusieurs universités et centres de santé mentale et qui prennent en charge les individus de manière confidentielle qui ont des intérêts envers les enfants, qu'ils aient ou non un passé judiciaire. Donc, retenez ça, le Sexual Behavior Clinic à Ottawa. Sinon, le meilleur exemple est en Allemagne. Ça vous tente de voyager jusqu'à là-bas, là? La prévention Project Dugenfield est vraiment comme étant le principal. C'est ce qu'on regarde à vouloir devenir tellement.
C'est quoi, hein?
C'est un centre, un peu comme on l'a vu ici au Canada, qui va accueillir les gens dans toute confidentialité et qui vont leur apporter une aide afin de se rétablir en société. Sauf que, contrairement à ici, c'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire qu'il y a moins de réactions face aux gestes, il y a moins d'outrance face aux... Je pense, je dirais plus de compréhension envers les gens qui souffrent de ça comme une maladie, si on veut.
Comment tu règles ce genre? Parce que c'est pas une boîte à outils là, qui va les aider, à mon sens. Là. C'est parce qu'on parle de pulsions sexuelles, on parle de libido élevé envers des enfants, des mineurs. C'est quoi? Là? On chope le minou? C'est des médicaments qui atténuent la libido? C'est quoi le plan? Là?
On a essayé bien des affaires, mais la réalité, c'est que c'est la thérapie qui va changer les choses. On a beau castrer quelqu'un, ça ne changera rien. Il y a toujours ce qu'il y a dans son cerveau qui reste là. Toutes les images qu'il aura regardées au précédent, on ne peut pas y enlever ça. On va moins dire « chopper le cerveau », ça n'arrivera pas. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de les aider, de les encadrer, c'est vraiment par l'éducation que ça va paraître. Bon, reconnaître les signaux d'escalade, on en a parlé. Reconnaître la différence entre le fantasme et le comportement problématique aussi. Tu sais, des fois, on check sur Internet, puis là, on se met à voir des affaires, puis on n'est comme pas sûr si on devrait regarder ce genre de choses. Écoutez donc votre feeling. Si vous vous sentez mal d'être là, c'est peut-être qu'il y a une raison. Tu sais? Et puis, à ce moment-là, il faut se poser la question, puis reculer en arrière. L'éducation retire la peur, puis ça modifie l'attitude des gens. Fait que les personnes qui souffrent de pédophilie vont pouvoir sortir chercher de l'aide sans avoir peur d'être sacrifié sur la place publique. T'sais. Fait que je pense que c'est surtout ça. Il faut modifier un petit peu notre perception pour permettre un plus grand traitement de ces personnes-là. Je vois la face à Audrey qui me regarde avec une grimace.
Non, mais c'est pas pour rien que tu fais ta job.
Ouais.
Je réalise que je pourrais pas la faire. Je salue vraiment, vraiment, vraiment ton ouverture d'esprit parce que je suis convaincue qu'il y a des gens qui doivent paniquer de sentir qu'ils ont un intérêt qui est pas normal.
Absolument, puis c'est fréquent. Très fréquent.
Je pense juste que c'est ça. C'est très tabou. C'est difficile d'avoir de la sympathie. J'ai pas encore d'enfant, mais tu parles de ça, puis j'ai les ovaires qui me claquent déjà en train de vouloir protéger quelque chose qui existe même pas.
Ben oui, puis je suis une maman, tu sais, fait que je peux comprendre ce dilemme-là. Mais en tant que société, il faut faire confiance. C'est une maladie. Ça vient du cerveau.
Fait que ces gens-là peuvent contacter conseillers, conseillères en sexualité, oui. Sexologue, peu importe,
sachez
pour se faire aider, puis il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens aussi, puis je ferme avec ça parce que je vois le temps passer, ouais. Là. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas lever la main parce qu'ils ont peur que vous appeliez la police.
Exactement. Puis non, c'est pas le cas. On va le faire. On est tenu de le faire en tant que professionnel. Si on sent un danger immédiat envers quelqu'un ou une n'importe qui, en fait. Si je sens, moi, en tant que thérapeute, qu'il y a une raison qui passe à l'acte, évidemment, on va dénoncer, c'est obligatoire. Mais la majorité des gens, comme je disais tantôt, ne vont pas le faire et donc ont besoin de se confier à quelqu'un et de faire le tour de la question pour ensuite être réhabilité dans l'idéal, c'est ce qu'on veut.
Mademoiselle V, conseillère en sexologie, merci beaucoup pour ce sujet-là ce matin. Je pense qu'on a fait ça quand même.
Mademoiselle.
Pour te rejoindre.
Pourquoi je dis encore ça? MademoiselleV.com, MLLEV.com.
Merci Val, merci Audrey, on t'écoute dans le retour cet après-midi.
Salut.
Au retour de la pause, puis en passant, ça s'est resté comme prévu, 1-0 à Finlande là, dans les quelques minutes qui restaient en première période. On continue de suivre ça pour la prochaine demi-heure du Point de Max. Au retour de la pause, les nouveautés musicales, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va s'amuser, mais avant ça, on va manger nos légumes parce que grosse nouvelle qui est tombée il y a quoi? Une heure et des poussières. Certains tarifs douaniers de Donald Trump qui sont invalidés par la Cour suprême des États-Unis. On fait le tour de qu'est-ce que ça affecte à travers le monde, qu'est-ce que ça affecte pour nous, le Canada. Plusieurs réactions, notamment de Dominique Leblanc, le ministre fédéral. Dans les dernières minutes, le ministre québécois Jean Boulet aussi a réagi pour nous dire un peu ce que ça changeait ou pas pour le Québec. Bref, on fait le tour. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard. Le Point de Max. Le Point